Bonsoir à tous. Rentrée politique à gauche pour le PS et pré-rentrée pour la droite. À Blois, aux universités d'été du Parti Socialiste, Olivier Faure appelle au rassemblement. Mais l'union avec les Verts est compliquée. On rejoindra à Blois Laurence Perron. À droite, chez les Républicains, la journée politique s'est déroulée en ordre dispersé. À 20 mois de la présidentielle, la désignation d'un champion à droite se heurte aux ambitions des poids lourds du parti. Valeurs Actuelles suscite une vague de condamnations. Dans son dernier numéro, l'hebdomadaire publie un dessin de Daniel Obono représentant la députée France Insoumise de Paris en esclave, chaîne autour du cou, la classe politique est outrée. Le Tour de France 2020, départ et arrivée à Nice aujourd'hui, une première étape bien particulière sous la menace de l'épidémie du coronavirus et en plus la pluie s'en est mêlée. En fin de journal, Ma Vie Connectée, notre rendez-vous du samedi soir avec Christine Siméon.
France Inter.
Le Tour de France 2020, pour commencer, la première étape s'est déroulée presque normalement, sauf que nous sommes fin août, pas en juillet, et dans un contexte sanitaire lourd, pratiquement sans spectateurs et avec une menace d'exclusion au-dessus des équipes si deux cas de Covid sont diagnostiqués dans leurs effectifs. Les coureurs sont partis de Nice en début d'après-midi et on retrouve sur les lignes d'arrivée Fanny Lechevestrier. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Frédéric.
Vous avez suivi toute la première étape et les préparatifs avant le départ. Une première étape et un début de tour bien étrange, sous la menace du Covid bien sûr, et avec beaucoup de chutes cet après-midi.
Ah oui, décidément, ce Tour de France n'a pas fini de réserver son lot de rebondissements et de surprises. On s'attendait à une étape entre guillemets tranquille, bien sûr disputée dans des conditions, vous l'avez dit, très particulières, avec personne dans la zone de départ ou presque, mais des supporters présents au long de la route. Et puis il a fallu qu'un gros orage s'invite sur cette route, entraînant chute sur chute. Parmi elles, on retiendra celle par exemple de Pavel Sivakov, premier Tour de France, un coéquipier très précieux d'Egan Bernal, le tenant du titre au sein d'Ineos. Il a été par deux fois à terre. Il est abîmé de partout, le jeune Pavel Sivakov. Et puis l'autre chute majeure qu'on retiendra aujourd'hui, elle pourrait décider de l'avenir de ce Tour de France. C'est celle de Thibaut Pinot, le Français, l'un des grands favoris de ce Tour de France, le leader de la Groupama FDJ, qui est tombé à 3 km de l'arrivée assez lourdement. La route était plate, mais c'était une véritable patinoire. Il n'a pas plu ici depuis deux mois, Frédéric. Résultat, eh bien, entre la pluie et l'huile qui remonte, eh bien, ça savonnette partout et presque sans explication, un bon nombre de coureurs sont tombés. Alors, rassurez-vous, Thibaut Pinot n'a pas perdu de temps parce que la course, les derniers kilomètres ont été neutralisés. Mais en revanche, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir physiquement. Il était en tout cas extrêmement énervé une fois la ligne franchie. On va voir demain, mais il pourrait y avoir des conséquences pour la suite.
Et le sport, Fanny, a tout de même repris ses droits. Victoire au sprint d'Alexander Kristoff.
Oui, premier maillot jaune de ce Tour de France 2020 très particulier. C'est déjà la quatrième victoire d'étape sur un Tour de France pour le Norvégien, un habitué des lieux. Demain, eh bien, ça nous promet encore un énorme spectacle. Alexander Kristoff ne devrait pas garder son maillot jaune parce que demain, ça devrait jouer à la pédale avec la montagne et les premières grosses difficultés du moment. Deux cols de première catégorie, la Colmiane et le Turini. Et il faudra encore une fois faire très attention à la descente du col de Turini. On l'avait annoncé, même à sec, elle est très difficile. Donc on espère qu'il n'y aura pas de dommages encore une fois.
Oui, on l'espère. Merci Fanny Lechevestrier en direct de Nice. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, également chargé des sports, a assisté au départ du Tour ce matin. Le ministre a assuré qu'il suit les conditions de la course avec une grande vigilance sanitaire. On écoute Jean-Michel Blanquer, il répond à la question: si l'épidémie de coronavirus s'aggrave, est-ce que le Tour peut être arrêté?
Sur tous les sujets, que ce soit le Tour ou tout autre sujet, on doit toujours avoir un sens de l'adaptation, donc être capable de prendre une décision en fonction de la situation. Il y a une telle préparation, il y a de telles précautions qui ont été prises, que l'hypothèse que vous évoquez est très faible. Mais on ne doit rien s'interdire, et donc tout est toujours possible. Donc ce genre de choses peut arriver, mais bien sûr, j'espère que ça ne va pas se passer. Et je pense que ça ne va pas se passer parce qu'il y a vraiment un travail extraordinaire qui a été fait par les organisateurs du Tour.
Et l'épidémie de coronavirus au niveau national, Santé publique France indique ce soir que 5453 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures. La gauche d'après, thème de l'université du PS ce week-end à Blois. Les socialistes espèrent une rentrée sous le signe de la Renaissance. Le rassemblement est élargi aux autres formations de gauche. Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts, était d'ailleurs ce matin à Blois. En direct de Blois, on retrouve Laurence Perron. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Alors Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a lancé un appel au rassemblement. L'union, c'est plus compliqué.
Oui, c'est compliqué. Alors, il a fait là un appel fiévreux à cette union de la gauche face aux deux périls, dit-il, que représentent le RN de Marine Le Pen et les promesses trahies du macronisme. À ceux qui, en interne, campent sur une candidature socialiste chimiquement pure pour 2022, il a répondu.
On me souffle, parfois même on me souffle très fort, que certains ont la jambe qui traîne, que d'autres, au contraire, veulent galoper. La politique a toujours envoyé des agendas personnels, des intérêts de boutique.
Absent des mobilisations du comité Adama, contrairement aux écolos, le patron du PS se justifie.
Refusez de vous vivre comme racisé. Faites valoir vos droits comme français.
Avec les féministes, en revanche, il s'insurge.
Et quand j'entends la défense de Gérald Darmanin plaider le fait que cette femme était une call girl, mais qu'est cette idée curieuse qu'il y a des femmes qui seraient moins femmes que les autres.
Il défend le nouvel ADN socialiste, finit maintenant le productivisme.
C'est terminé, parce que c'est le gâteau lui-même qui est menacé de disparition, et parce que les premières victimes de l'anthropocène, ce sont les classes populaires et les générations futures.
L'ancien PS est mort, vive la gauche, d'après sociale et écologique en substance. Jean-Luc Mélenchon, à distance, juste avant son discours, a fait parvenir une offre de programme commun. Elle était destinée à toute la gauche, sauf au PS.
Merci Laurence Perron avec François Rivalan. À droite, à 20 mois de la présidentielle, les ambitions se dévoilent. Les ténors, les Républicains et d'autres personnalités de droite, ex-LR, ont fait leur rentrée en ordre dispersé avant le rendez-vous officiel le week-end prochain au Port Marly, dans les Yvelines. À la Baule aujourd'hui, plusieurs poids lourds de droite se sont retrouvés, Bruno Retailleau, Rachida Dati, Gérard Larcher, pour essayer de réfléchir au processus de désignation de leur champion pour la présidentielle primaire. Système de départage, la droite s'interroge, Gérard Larcher au micro de Yannick Falt.
Rien ne serait pire qu'une compétition fratricide au premier tour de l'élection présidentielle. C'est inéluctablement la très mauvaise assurance de ne pas être présent au second tour et d'aller, pardonnez-moi, à notre troisième défaite à l'élection présidentielle. Et je le dis, il nous faudra trouver un système de départage au-delà des frontières des partis pour choisir et soutenir notre candidat à l'élection présidentielle.
Gérard Larcher, le président du Sénat, avec Yannick Falt. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est marié aujourd'hui à Tourcoing dans la plus stricte intimité. Après son mariage en seconde noce, Gérald Darmanin devait démissionner de son poste de maire de Tourcoing. C'est une publication du magazine Valeurs Actuelles qui fait énormément réagir et qui vise Daniel Obono, député de la France Insoumise. Emmanuel Macron a appelé Daniel Obono pour lui témoigner sa sympathie et sa solidarité. Le président de la République condamne toute forme de racisme et ce matin, le Premier ministre Jean Castex a jugé la publication révoltante. Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire publie un récit avec des dessins représentant Daniel Obono en esclave, collier en fer et chaîne autour du cou. Condamnation unanime. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, au micro d'Alice Ancelin.
Je me réjouis de voir que de nombreuses personnes de divers bords politiques se solidarisent dans la dénonciation du procédé utilisé par le journal Valeurs Actuelles, qui se présente comme un journal d'extrême droite assez classique, et je le déplore parce qu'à un temps on avait eu l'impression que ce journal était revenu à, comment dire, une idée d'échange d'idées, on peut admettre que des gens aient des idées d'extrême droite, même si on ne les partage pas, mais qui est redevenu une espèce de feuille d'égout classique de l'extrême droite, maniant l'injure, la caricature haineuse, au regard de la couleur de peau des gens, c'est tout à fait déplorable.
Jean-Luc Mélenchon sera demain l'invité d'Ali Badou dans Questions politiques. Et de son côté, Valeurs Actuelles a présenté ses excuses à Daniel Obono. La rédaction explique qu'il n'y a aucun racisme ni aucune volonté de nuire de la part de l'hebdomadaire, selon le directeur adjoint de la rédaction. Manifestation anti-corona écourtée à Berlin. 18 000 personnes se sont rassemblées à la mi-journée porte de Brandebourg pour protester contre le port du masque obligatoire et contre les mesures de restriction. La police a interrompu la manif. Les gestes barrières et la distanciation minimum n'étaient pas respectés par la foule. Et à Paris, 200 à 300 militants anti-masques se sont également rassemblés dans le calme, place de la Nation. La moitié environ des manifestants a été verbalisée pour non-port du masque. 135 €. Il s'agit de la première mobilisation anti-masque en France. Le Louise Michel, le navire humanitaire affrété par l'artiste de rue Banksy, a été rejoint par les gardes-côtes italiens. Le navire avait lancé un appel à l'aide après avoir effectué un sauvetage massif de migrants en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont évacué 49 personnes jugées les plus fragiles. Notre rendez-vous du samedi soir, Christine Siméon, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre conique Ma vie connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Alors comment donner le goût de la lecture et même de l'écriture aux enfants? Cette question récurrente dans l'esprit de parents ou d'enseignants peut trouver une réponse avec l'appli Plume pour smartphone. Christine Siméon, vous l'avez bien sûr testé.
Oui, alors on oublie Fortnite deux minutes. Plume, c'est une autre façon d'avoir un smartphone sous les yeux pour les enfants. On commence par choisir une histoire en fonction de son âge, mais assez vite et passé les premières pages, les enfants sont invités à écrire eux-mêmes quelques lignes. Par exemple, dans l'histoire de Piratouille, la jeune héroïne doit convaincre les pirates de cesser les combats. Et les lecteurs sont invités à rédiger l'argumentaire de la petite fille.
Et alors que devient cette petite rédaction?
Elle est corrigée, commentée par une équipe d'enseignants ou de professionnels de l'éducation. Ce feedback, eh bien, c'est la marque de fabrique de Plume, comme l'exprime sa fondatrice, Aude Guénaud.
Nous, on veut montrer aux enfants que ce qu'ils écrivent, ça a beaucoup de valeur, c'est très précieux. Donc pour moi, c'est très important qu'ils puissent imprimer leur propre livre. Parce que en fait, ils vont recevoir un objet livre qui est extrêmement beau, avec des illustrations professionnelles. On peut montrer à ses grands-parents, à ses parents, à sa maîtresse. Parce que les enfants, finalement, sont comme nous. Ils écrivent pour dire qui ils sont. Ils écrivent pour dire leur rapport au monde et diffuser leurs idées.
Alors à ce jour, Christine, les jeunes lecteurs ont écrit 250 000 chapitres et Plume a imprimé 5000 histoires différentes pour les envoyer à leurs auteurs et autrices en herbe.
Oui, et les enseignants désormais sont aussi destinataires de cet outil, car c'est pour eux un support possible de travail et d'échange avec leurs élèves pour faire évoluer leur habileté à l'expression écrite.
Les trois choses qui sont vraiment extrêmement favorable pour qu'un enfant progresse en expression écrite, c'est d'une part avoir un retour personnalisé extrêmement rapide, d'autre part que l'enfant soit acteur, et enfin qu'il aime ce qu'il est en train de faire. Et nous, on est vraiment dans cette dynamique avec vraiment la volonté de pouvoir mettre en place vraiment une personnalisation dans les apprentissages, et c'est ce qui permettra au numérique d'apporter de l'égalité et de l'équité pour tous les enfants. C'est de permettre des apprentissages extrêmement efficients et extrêmement personnalisés.
Ça s'appelle Plume, tout simplement, particulièrement adapté aux 8-12 ans, abonnement entre 4 et 10 euros par mois. Et c'est à retrouver en détail sur franceinter.fr. Merci Christine Siméon, Ma vie connectée, à samedi prochain.
Merci beaucoup.
Week-end encore chargé sur les routes, des retours de vacances, 263 km de bouchons à la mi-journée. Caroline Félix, en direct du PC Mobilité de Radio France. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
La journée était classée rouge dans le sens des retours et il y a des difficultés dans la vallée du Rhône.
Et oui, les bouchons là en ce moment remontent vers le nord, le long de l'A7. C'est compliqué pour aller de Montélimar jusqu'à Valence. Il y a un gros bouchon sur 15 km entre la Coucourde et Livron-sur-Drôme. Après Valence, ça commence à bien se charger. Aussi, il faut une heure pour rejoindre le tunnel de Fourvière à Lyon. Vous êtes ralenti aussi dans le Puy-de-Dôme sur l'A75 en direction de Clermont-Ferrand à Issoire. Et puis enfin, en région parisienne, c'est plutôt fluide, hein, 90 km de bouchons seulement. C'est chargé en revanche sur l'A10 en direction de la capitale à partir de la sortie d'Ourdan jusqu'à la jonction avec l'A126.
Caroline Félix, en direct du PC Mobilité de Radio France, merci. Un œil sur le temps, demain, dimanche, guère mieux qu'aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Peu ou pas de changement demain avec le maintien de températures souvent trop basses pour l'époque de l'année, de l'ordre de 18 degrés près de la Manche, soit pratiquement autant que la température de l'eau, 20 à 23 du centre Val-de-Loire au sud-ouest, 18 à 20 près des frontières du nord-est et en Rhône-Alpes, et 25 à 30 pour les valeurs les plus élevées de Montpellier à Nice et à Bastia. Sous un ciel moins menaçant qu'aujourd'hui, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, autour de la Méditerranée, le vent de retour va dégager le ciel dès la fin de la matinée. En revanche, sur les autres régions, maintient la temps très variable, accompagné de séquences d'averses et parfois d'orages, avec un vent du nord bien marqué sur les côtes de la Manche et de la neige entre 2000 et 2300 mètres sur l'est des Pyrénées et le nord des Alpes.